se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
8h08, nous voilà de retour, bon dimanche avec RMC, bienvenue si vous venez d'arriver chez nous. Jusqu'à 10h, c'est l'automobile et Jean-Luc Moreau toujours là, fidèle au poste. Jean-Luc qui est en train de résoudre son problème de chauffe-eau visiblement, hein, avec tous les auditeurs plombiers qui ont essayé de vous aider, ça c'est sympa.
Non, mais je pense vraiment que c'est le contacteur, c'est le contacteur qui marche pas.
Très bien.
Non, mais autrement, avant de commencer de passer sur autre chose, on a énormément d'auditeurs qui nous demandent. Vous n'avez pas répondu à la question de l'auditeur précédent qui demandait à quelle fréquence il fallait régénérer le filtre à particules. Alors je vais vous donner une réponse claire, ça dépend. ça dépend. Non, mais alors on n'a pas évoqué le cas des diesels. C'est vrai qu'il est un peu plus problématique que celui de modèle essence. Donc modèle essence, vous en occupez pas, vous faites de temps en temps un coup d'autoroute, c'est bon. Si vous avez une voiture diesel, si vous faites de la ville dans la semaine, une fois par semaine, je fais un bout d'autoroute, je suis à 3500 tours. Et ça dépend aussi du kilométrage de la voiture. Plus votre voiture va avoir de kilomètres, plus le filtre aura besoin d'être régénéré fréquemment. Voilà. Mais sur un véhicule récent, si je fais de la ville une fois par semaine, je fais 10 minutes, un quart d'heure à 3500 tours. Et dans les autres cas, c'est-à-dire si je fais de la route et pas de la ville, une fois par mois, je fais le même exercice.
Très bien. Jean-Luc, tout à l'heure, Maître Rémi Jossomme sera là. C'est, vous le savez, notre avocat spécialisé dans le droit des automobilistes. On évoquera la dashcam. Vous savez que c'est une petite caméra qu'on installe sur son rétroviseur. Avantage ou inconvénient pour l'automobiliste?
Il y a même des voitures qui sont équipées d'origine avec des dashcams. Les Citroën, par exemple.
Exactement.
Il y a une dashcam d'origine.
Mais en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce que c'est une vraie preuve?
Est-ce que c'est une preuve vidéo? Est-ce que c'est recevable auprès des tribunaux? Est-ce qu'à l'inverse, la police peut s'en servir pour vous verbaliser? On verra ça avec Rémi.
L'essai de la semaine, la nouvelle Dacia Sandero Stepway Eco 100G. Que vous avez beaucoup apprécié, on rentrera dans les détails tout à l'heure. Et vos questions, 3216, l'appli RMC Direct Studio. Jacques nous accueille tout de suite. Bonjour Jacques.
Bonjour, bonjour François, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Jacques.
Jacques du Morbihan, bienvenue Jacques.
Oui, alors donc j'ai une BMW X1 290 chevaux S-Drive d'août 2016. Elle a 95 000 km, j'ai pas mal roulé pendant 4 ans et demi, parce qu'elle est donc de 2016. Et aujourd'hui, j'habite en ville et je vais faire 10-12 000 km par an. Alors je me pose la question justement de changer mon véhicule. Mais je suis un petit peu embêté de conserver une diesel qui ne va pas faire suffisamment de trajets. Oui,
voilà. Surtout, c'est les petits trajets qui les massacrent.
Oui,
c'est pas tant le kilométrage qu'on fait chaque année. Le kilométrage, c'est pour la rentabilité. Un diesel qui ne fait que 10 000 km par an, on ne rentabilise jamais le surcoût du diesel. Le vrai, mais si vous faites 10 000 km d'un coup, ce n'est pas gênant d'avoir un diesel. En revanche, ce qui est vraiment à la fois un problème en termes d'environnement et un problème mécanique pour les voitures, c'est de faire les petits trajets qu'on évoquait tout à l'heure. Genre, je vais chercher le pain, je vais faire mes cours, j'emmène les enfants à l'école. Ça, en ville, avec un diesel. Et puis, en plus, dans la semaine, je fais du bouchon pour aller à mon travail. Ça, c'est catastrophique.
Donc, alors, moi, c'est surtout pour le loisir, mais bon, je vais m'en servir peu, quoi. Donc, quand je vais notamment jouer au golf régulièrement, parce que je suis retraité.
Ah, donc il vous faut un grand coffre. pour mettre un sac de golf.
Voilà, un sac de golf. Ouais. Non, mais c'est vrai que je vais faire peu de kilomètres, quoi, beaucoup de petits trajets, parce que j'ai donc un appartement maintenant en plein centre-ville, justement, pour me servir le moins possible de ma voiture. Et donc, je savais pas trop quoi vers quoi m'orienter, essence, hybride, je suis pas très branché électrique, donc voilà quoi, parce que j'ai peur que mon diesel s'abîme en roulant peu, quoi.
Ouais, c'est compréhensible. Puis une grosse voiture, moi, un X1, c'est pas gigantesque, mais ça, c'est quand même une grosse voiture.
C'est une très bonne voiture.
Pour rouler en ville, ouais.
Oui.
Vous voulez rester quoi, voiture allemande ou Parce qu'il y a ça aussi en matière, ça dépend de vos goûts.
Alors, mes goûts, c'est déjà mon commercial que je connais depuis 20 ans, qui m'a vendu déjà plusieurs BMW, doit me recontacter pour me revendre une série 1 peut-être en essence, ou voilà, je ne sais pas autrement du tout quoi faire.
Bon, le moteur BMW, le moteur essence BMW, il est top, hein. Franchement, dans les 3 cylindres, le 1,5 litre, là, c'est vraiment un super moteur. Moi, je trouve qu'il marche très bien, il est relativement économe en carburant pour un moteur essence. Ça consommera de toute façon un peu plus sur route que votre diesel, mais ça reste un bon moteur. Donc vous pouvez effectivement, mais là vous aurez une voiture qui fera la même taille que l'autre. Et chez BMW, le problème c'est que des toutes petites voitures, il n'y en a pas. Mais vraiment, non. De la citadine, il n'y en a pas. Donc vous serez à peu près dans la même taille. Et puis j'allais vous dire, vous pouvez mais vous ne voulez pas d'électrique, hein, c'est ça?
Pas trop, dire que dans l'immeuble, ils doivent nous installer.
Ah oui, c'est un problème de charge.
Peut-être. Alors, peut-être. Je sais pas.
Ouais, non,
oui,
vous avez
peut-être.
Raison.
Oui, mais alors, je sais pas si ça va être la charge rapide, je pense pas. Donc,
non, mais c'est pas trop gênant de pas avoir beaucoup de puissance quand on a une prise de charge chez soi, parce que en général on recharge la nuit et on peut laisser la voiture branchée plusieurs heures. C'est pas trop un problème. Sauf à faire beaucoup de trajets dans la journée, si vous êtes taxi et que vous faites beaucoup de kilomètres, oui, ça va être un problème de pas avoir une borne de charge suffisamment puissante à la maison. Mais autrement, pour un usage normal de monsieur et madame tout le monde, 3,7 kilowatts, ça suffit à la maison, hein. Donc une prise classique. D'accord. Que vous aurez dans le parking. Mais si vous n'en avez pas pour le moment, effectivement, ça peut être un problème. Alors, vous pouvez vous orienter vers de l'hybride.
Oui, d'accord.
Alors,
qu'est-ce que vous conseillez? Parce que c'est assez large, l'hybride.
Ah ouais, c'est large. Bon, alors, le spécialiste de l'hybride, depuis toujours, ça reste Toyota, hein. Ça a été, oui, les premiers à être sur le marché. Aujourd'hui, en matière de fiabilité, c'est eux qui proposent à la fois les solutions les plus fiables et puis les consommations les plus basses. Personne pour le moment a réussi à égaler les consommations des Toyota. Donc dans ce qui correspond à peu près à ce que vous aviez, il y a le CHR de Toyota qui est même disponible en deux niveaux de puissance. Donc celui le plus puissant, comme vous étiez habitué à un véhicule quand même qui avait un peu de reprise, il faut pas
que
vous... Voilà, avec un... Alors un coffre, ok, ouais, si les clubs de golf, ça tiendra. Vous n'avez pas besoin d'une très grande voiture, de toute façon.
Non. Et puis, la plupart du temps, je suis seul dedans, donc.
Voilà, puis on n'a pas parlé de budget. Alors, vous savez quoi? Vous m'envoyez un chèque de 70 000 euros, et puis je m'occupe de tout.
Ok.
Et il est sympa, hein. Il a dit ok tout de suite.
Il a dit ok, voilà. Non, un CHR, ça peut... Alors, est-ce qu'il vous plaît ou qu'il ne vous plaît pas? Je ne sais pas. Il a un look un peu particulier.
Ah, c'est celui qui est assez coupé à l'arrière.
Ouais, c'est ça, ouais. Vous savez, il a des lignes assez tendues. Alors,
bon. Oui, j'ai des amis qui ont ça, ouais. Je ne suis pas très...
Ouais. Bon, après, sinon, ce qui est bien pour la ville, c'est la Honda Jazz, mais la Jazz, franchement, là, c'est moi, pour le coup, qui la trouve pas très sexy. Donc, vous rentrerez vos clubs de golf dedans, il n'y a pas de problème, parce que il y a un système qui est très malin de flexibilité à l'intérieur. Mais bon, par contre, pour aller, ça va vous changer de la BMW, ça, c'est clair.
Ouais, c'est sûr.
Ouais. Voilà, Jacques. Il n'y a pas trop okay. J'ai pas la solution idéale pour vous. Parce que même une Mini, parce qu'il y a ça, quoi. Quand on décide chez BMW d'avoir une voiture plus petite, on va chez Mini.
Oui, puisque c'est fabriqué par BMW.
C'est juste la porte à côté. Donc, ça pourrait être aussi une solution.
Jacques, merci pour votre appel. 8h16 sur RMC et on accueille Maître Rémi Chaussaume. Bonjour, Maître.
Bonjour, François. Bonjour, Jean-Luc.
Bonjour, Maître.
Notre avocat préféré.
Donc, Rémi qui a installé des dashcams partout chez lui, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Oui.
Hein. Alors, c'est-à-dire qu'on peut installer une dashcam dans un appartement, ça a du sens?
Non, ça n'a pas de sens, parce que d'abord, il faut alimenter en 12 volts, donc ça va être,
ouais, ça va être compliqué. Il vaut mieux prendre une caméra connectée, ça sera plus simple.
Ça va être problématique. Mais Rémi, est-ce que vous avez une dashcam, vous, sur vos véhicules ou sur votre deux roues? Parce qu'on peut mettre sur une moto aussi, hein.
Ouais, je suis tellement convaincu de l'utilité de ce dispositif que j'en ai sur certaines de mes voitures et j'aimerais vraiment pouvoir installer ce dispositif, puisque vous savez que je suis motard le reste du temps, quand je fais de la moto, mais sur la moto c'est plus difficile.
D'accord, alors quel avantage, alors on parle juridique évidemment, quel avantage d'avoir une dashcam? Est-ce que c'est recevable comme preuve les images d'une caméra embarquée? Parce que c'est une caméra embarquée sur lesquelles on va avoir des données de localisation, des données de vitesse, et donc bien évidemment c'est grand angle, donc on voit tout ce qui se passe à l'avant du véhicule.
Oui, et certaines d'entre elles d'ailleurs enregistrent aussi la conversation que vous pouvez avoir avec vos passagers.
Ça peut être un peu un problème, ça.
Ah oui, mais ça peut aussi avoir un autre avantage. D'abord, pour répondre à votre question, Jean-Luc, sur le plan pénal, oui, ça a un intérêt parce que, comme vous le savez, le PV fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ça, vous le savez, Jean-Luc, hein, quand on reçoit un PV, si on veut le contester, il faut rapporter éléments contraires.
Exactement, oui.
Bon, eh bien, la dashcam peut vous permettre de convaincre le juge que l'infraction qu'on vous reproche n'existe pas ou a mal été constatée par l'agent verbalisateur.
Mais excusez-moi, maître, je vous coupe, mais justement, au moment où on se fait arrêter, bon, par exemple, vous avez un policier qui vous arrête et qui vous dit que vous avez grillé un feu rouge. Si on a une dashcam, est-ce qu'on peut lui faire visionner les images pour éviter d'être verbalisé ou pas? D'être devant le juge?
Alors vous pouvez parfaitement lui soumettre l'idée de regarder ensemble la vidéo. La difficulté, c'est que la plupart du temps, il faut extraire la carte pour la lire dans un lecteur, d'une part. Et puis, je suis pas certain que le policier ou le gendarme prenne le temps de le faire, très honnêtement.
D'accord. Bon.
Mais une fois que la verbalisation est établie, vous pouvez effectivement soumettre cette preuve au juge. Alors, c'est pas une preuve parfaite, bien évidemment, parce que toute preuve ou tout élément de preuve reste soumis à l'appréciation, à la discussion devant un tribunal. Donc, c'est le juge qui souverainement va dire si cette preuve, va effectivement à l'encontre de la constatation du gendarme ou du policier.
Oui, mais néanmoins, je reprends toujours mon exemple de feu rouge. Si je suis passé à l'orange et pas au rouge et qu'on voit nettement sur la caméra que le feu était orange, le juge ne pourra pas refuser d'admettre ça comme une preuve.
Il pourra pas refuser, oui et non, si vous voulez, Jean-Luc. À partir du moment où, comme je viens de vous le dire, c'est laissé à la libre appréciation du juge. Encore faut-il que tous les éléments de véracité de la vidéo, de lieu, de temps, permettent vraiment de s'assurer que c'est bien à cet endroit-là que la vidéo a filmé l'infraction que vous contestez. Parce qu'en matière pénale, la preuve est libre. Donc, vous pouvez toujours la soumettre au juge, comme toutes les vidéos d'ailleurs que l'on voit dans tous les dossiers en matière pénale. Maintenant, encore une fois, c'est le juge qui appréciera si cet élément de preuve peut ou pas le convaincre, mais c'est effectivement un élément qui va venir combattre sérieusement ce que le policier a pu constater. En tout cas, c'est mieux que si vous n'aviez rien du tout, bien
d'accord,
évidemment.
Bon, à l'inverse, est-ce que si quand je suis passé au feu orange, bon, on voit bien que c'est le feu orange, mais la vitesse indiquée c'est 80 km/h au lieu de 50, là, est-ce que ça peut se retourner contre moi?
Alors oui, ça peut se retourner contre vous là aussi. Moi, j'ai eu des dossiers où les gendarmes et les policiers ont saisi les dashcams ou, parce qu'on peut parler plus globalement, des GoPro, c'est-à-dire tous les éléments de vidéo, pour bien constater des infractions. Et là, de la même manière, c'est le juge qui va apprécier de la réalité de l'infraction, notamment en matière d'excès de vitesse, en matière de franchissement d'intersection sans respecter les priorités, etc., etc. Donc, d'un point de vue de la défense, ça peut vous servir évidemment pour contester un PV. Par contre, il faut le savoir, c'est un élément qui peut aussi être saisi dans le cadre d'une conduite à risque, dans le cas d'un accident, bien évidemment. Les gendarmes ou les policiers peuvent très bien saisir votre dashcam ou votre GoPro, enfin bref, tout élément de vidéo, et bien pour en tirer les conséquences et la réalité d'une infraction. Voilà, moi j'ai le souvenir d'un motard qui roulait extrêmement vite et qui avait filmé ses exploits et les avait publiés sur les réseaux sociaux. Eh bien, il a été poursuivi et condamné à l'appui de ces éléments-là, alors qu'aucun policier n'avait constaté ce jour-là l'infraction. Elle a été constatée bien plus tard.
Donc, d'accord.
Après, il ne faut pas être très malin de poster ce type de vidéo quand on est à 200 sur l'autoroute.
Oui, enfin là, c'était pas 200, c'était 300, mais effectivement, c'est pas malin non plus.
Excusez-moi. 300 et c'était en ville en plus.
Oui, c'est ça.
Non, c'était sur l'autoroute.
Juste une chose. Vous nous écoutez, vous avez une dashcam et ça a servi un jour.
Eh ben, Thierry Modolo, qu'on connaît bien.
N'hésitez pas, non, mais
Monsieur ralentisseur avait été arrêté par un gendarme qui disait qu'il était à plus de 50 km/h. Il avait une dashcam dans sa voiture qui indiquait 47 km/h. Donc lui a réussi à prouver qu'effectivement, il n'était pas au-delà de 50 km/h.
Mais si vous avez des petites anecdotes à nous raconter, voilà, lié à votre dashcam, n'hésitez pas, 32-16 ou l'appli RMC Direct Studio.
Rémi, en matière d'assurance, la dashcam, pour le coup, c'est un vrai avantage.
Ah bah oui, là aussi. Alors, c'est vrai que les assureurs sont assez frileux pour l'instant de recourir à cela. Il y en a certaines assurances qui l'encouragent. Bah là, c'est un avantage évidemment parce que de la même manière, quand vous allez produire le film à votre assureur, ça va permettre la plupart du temps de déterminer sans discussion, j'allais dire, la responsabilité. D'abord, la réalité de l'accident, parce que vous savez, hein, si vous avez un accident sans identifier un tiers, l'accident, il vous est imputé à 100%. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir déterminer les responsabilités. Je vais vous donner un cas tout à fait personnel. Moi, j'ai eu un accident avec un animal sauvage il y a quelques mois. Il a fallu bien que je justifie que c'était bien un animal sauvage qui avait traversé la route. Et bien, grâce à la vidéo, j'ai pas eu de difficulté.
C'était quoi, un éléphant rose en sortie de boîte de nuit, non?
Non, ça c'était après, celui-là. Mais non, au départ, c'était un espèce de chevreuil ou je ne sais quoi. La problématique, c'est que quand vous tapez ce genre d'animal, bah, il faut relever l'ensemble des preuves qui démontrent que vous avez bien eu un accident avec un animal sauvage, parce que là, vous n'avez pas de malus, vous n'avez pas de responsabilité engagée. Par contre, si vous vous présentez à votre assureur avec un accident et que vous n'avez pas la preuve que c'est bien un animal sauvage, et vos seules déclarations, votre assureur peut tout simplement dire vous avez eu un accident tout seul ou avec un tiers non identifié qui n'est pas un animal sauvage, et donc là, votre responsabilité est engagée, vous avez le malus. Bon. Oui. Donc sur le plan civil, c'est intéressant également. Mais aussi, en cas d'accident, faut le signaler, pour les délits de fuite. Vous savez comme moi que les délits de fuite explosent depuis de nombreuses années parce que les gens roulent sans permis ou les gens roulent sans assurance. Bah, là, vous permet, la dashcam va vous permettre d'identifier le véhicule. Alors, pas toujours le conducteur, bien évidemment, mais au moins d'avoir la preuve que vous avez eu un accident avec un véhicule qui a pris la fuite et vous avez son immatriculation la plupart du temps. Donc, moi, aujourd'hui, je n'y vois que des intérêts dans une société où, comme vous le voyez avec l'actualité, les vidéos ont souvent un intérêt pour trahir la vérité.
Alors justement, on a un auditeur qui nous dit, tiens, je suis motard et je roule tout le temps sous dashcam, mais c'est tellement rassurant, il y a tellement de mauvais comportements dangereux sur la route que je ne peux plus m'en passer. Donc voilà, hein, c'est vrai que quand on est motard...
Est-ce qu'avec cette nouvelle loi là qui interdira de filmer les forces de l'ordre, enfin bon, c'est pas interdit de filmer les forces de l'ordre, mais est-ce qu'on pourrait être inquiété par une dashcam justement?
Bah, on en reparlera certainement, Jean-Luc, mais il faudra dire, il faudra presque le crier, je pense. La loi n'interdit pas et n'interdira jamais de filmer. On a déjà fait une chronique il y a quelques mois là-dessus.
Oui, on a déjà fait une chronique. Ouais.
Sur les contrôles routiers. Le problème, c'est l'amalgame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va dire vous n'avez plus le droit de diffuser, les gens vont penser on n'a plus le droit de filmer. Et les forces de l'ordre, déjà aujourd'hui, ont du mal à accepter qu'on les filme, alors que c'est tout à fait légal. Donc imaginez demain. Bon, l'amalgame, il est évident. Donc pour répondre directement à votre question, évidemment que vous pourrez filmer avec votre dashcam, vous pourrez extraire de votre dashcam tout ce que vous allez constater. Si cette loi passe en l'état, évidemment... Ce que vous ne pourrez pas faire, mais ça c'est tout à fait normal, c'est aller exposer sur les réseaux sociaux le visage, les coordonnées d'un agent de police uniquement dans le but de lui nuire.
Ça c'est compréhensible.
Il n'y a pas de difficulté, il faut l'interdire, évidemment qu'il faut l'interdire. Simplement, voilà, on le voit bien aujourd'hui, on est dans une société d'une surveillance absolue et le citoyen a recours à des éléments de preuve, comme l'État lui aussi a recours à des éléments de constatation, c'est-à-dire la vidéosurveillance, la vidéo globalisation, elle pullule dans toute la cité. Il n'y a rien de choquant à ce que le citoyen lui-même puisse sécuriser sa conduite.
D'accord.
Et c'est vrai que quand vous conduisez avec une dashcam, vous avez une conduite même plus apaisée parce que vous avez un environnement sécurisé. Tout est dans le troisième œil, j'allais dire, de votre véhicule.
Maître, merci beaucoup.
Merci Maître.
On a Philippe qui nous dit, tiens, combien coûte une dashcam? On en parlera tout à l'heure, hein. Ce sera dans une heure à peu près. On aura...
Un représentant de Pioneer, voilà, qui viendra nous parler justement de trois nouveaux modèles qui viennent de sortir.
Parce qu'il faut
qui sont assez innovants d'ailleurs.
Voilà, Pioneer fait des dashcams. Hein.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Jusqu'à présent, il y avait des marques un petit peu exotiques, on va dire, qui apparaissaient et disparaissaient, qui faisaient des dashcams. Bon, là, Pioneer, au moins tout le monde connaît la marque, ça reste sérieux, quoi.
Enfin, connaît tout le monde. C'est vrai que les jeunes connaissent moins Pioneer que nous. Hein. Nous, on a une génération Pioneer, mais les jeunes connaissent beaucoup moins. Hein. C'est comme ça. La météo, Léon revient. On aura Georges avec nous, qui va nous parler de sa BMW hybride rechargeable. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
8h30 sur RMC, c'est votre tour jusqu'à 10h. Ne ratez pas tout à l'heure l'essai de la semaine, la nouvelle Dacia Sandero, Stepway, Eco 100G. Je vous rappelle que tout à l'heure, on évoquera aussi les voitures électriques avec cette réflexion d'un auditeur qui nous dit que si demain on roule tous en véhicule électrique, on pourrait bloquer les autoroutes.
Ouais, on ne pourra plus partir en vacances.
Ça, c'est embêtant.
Au moment des départs en vacances, ça bloquerait l'autoroute. Je vous expliquerai comment le calcul a été fait. Vous allez voir, c'est sérieux.
Ça tient la route.
Ça tient la route, c'est le cas de le dire. Ouais, exactement. Ça tient toute la route.
Georges est avec nous au 32-16. Bonjour Georges.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Bienvenue Georges.
Bonjour Georges.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous arrive, Georges ?
Ouais, en fait, c'est tout simple. J'ai une BMW 125 XE.
D'accord.
Hybride rechargeable.
Ouais.
Et puis, pendant tout le confinement, en fait, je me suis rendu compte que je roulais plus que électrique.
Mais ça, c'est bien. Ça veut dire que vous la rechargez. Ça m'intéresse, Georges, avant que vous posiez votre question, justement, de savoir, vous la rechargez fréquemment, vous, votre voiture hybride rechargeable ?
Je la branche dès que j'arrive à la maison.
D'accord. Donc, vous faites, on va dire, la majorité des trajets en électrique.
En cette période de confinement, je dirais même que je roule que électrique.
D'accord.
Je fais des petits parcours dans Toulon, je sors pas. Donc en gros, je fais avec un plein de 30 et quelques litres, parce que le réservoir est tout petit, avec un plein de 30 litres, je me fais facilement 3 à 4 000 km.
Oui, donc vous faites mentir tous ceux qui disent l'hybride rechargeable, c'est pas du tout écologique. La preuve, c'est que ça dépend effectivement si on recharge ou pas.
Voilà, puis en plus, ça dépend vraiment de l'utilisation, parce que effectivement, j'ai 300 kilos de plus que la normale. Quand je prends l'autoroute, c'est évident que je consomme plus.
Sur l'autoroute, c'est le cas de figure le plus défavorable pour les hybrides ou les hybrides rechargeables. C'est vraiment l'endroit où il vaut mieux, si on fait que des grands trajets autoroutiers, il vaut mieux un diesel, c'est clair. Mais dans tous les autres cas de figure, c'est plus avantageux. Alors vous, votre question, comme vous roulez que à l'électrique, j'imagine que vous vous demandez si ça va pas causer un problème sur la partie thermique de la voiture qui ne sert plus.
Oui, c'est même un peu pire que ça. En fait, je me sers de la partie thermique quand j'ai besoin de puissance. Donc, en gros, le moteur n'a pas tourné depuis une semaine, 15 jours, 3 semaines. J'accélère brutalement. Le moteur thermique se met en fonction et dans les hauts régimes avec beaucoup de puissance. Ça me fait un petit peu mal au cœur quelque part.
Oui,
un petit peu,
mais
j'ai toujours peur d'abîmer, quoi.
Ça, c'est vrai. Alors, plusieurs trucs déjà. Vous me dites, il y a un petit réservoir, mais je fais 3000 km. Vous faites 3000 km en combien de temps ?
En 3 mois, 4 mois.
Alors, pas laisser trop longtemps l'essence dans le réservoir. Parce que les essences aujourd'hui, surtout les essences modernes, en particulier le super sans-plomb 95E10, vieillissent pas bien. Ça veut dire qu'ils commencent à perdre un peu leur propriété à partir de 3 mois. Et au-delà de 6 mois, ça peut poser des problèmes dans le circuit d'alimentation. Donc faire attention de ne pas rester pendant plusieurs mois sans rouler. En plus, la pompe à essence, enfin tout le circuit d'alimentation, le fait de ne pas rouler, ça peut provoquer des pannes. Donc il faut de temps en temps faire rouler la voiture à l'essence. Déjà pour une autre chose, c'est que l'huile qui est dans le moteur, une huile, ça s'use même quand on roule pas. Et ça se dégrade même encore plus vite quand on roule pas, parce que l'huile va charger en humidité, elle va s'oxyder et elle aura un moins bon pouvoir lubrifiant. Et pour enlever cette humidité qui naturellement va se mettre dans l'huile, il faut faire chauffer l'huile. Et si votre voiture roule jamais en thermique, l'huile va pas chauffer. Donc de temps en temps, il faut se faire un parcours et faire monter l'huile au-delà de 100 degrés. Ça veut dire clairement, il faut faire 20 bornes en thermique de temps en temps, quoi.
Okay. Hein,
voilà. Donc si vous voulez de toute façon démarrer le moteur thermique, là on va être l'hiver. Vous lui demandez du chauffage à fond et puis il va vous mettre le moteur thermique en route. Hein. Bon, après vous pouvez le forcer. Le mieux c'est de le forcer quand même.
Voilà, moi pour le forcer en général je me mets en mode sport et automatiquement j'ai le.
Voilà. Faites de temps en temps un petit trajet en thermique quand même, effectivement pour préserver la santé de votre moteur.
Voilà,
et la fréquence.
Faites-le
une fois par semaine, une fois par mois, vous pensez.
Une fois tous les 15 jours, c'est suffisant.
Tous les 15 jours, ok. Okay.
Merci Georges.
Merci beaucoup.
Bon
dimanche. Au revoir.
On va accueillir Étienne tout de suite. On a pas mal de réactions sur les dashcams, Jean-Luc. Notamment Julien qui nous dit il serait bon de rappeler qu'il y a des pays où les dashcams sont interdites.
Ouais, je sais pas. Il dit en
Grèce,
Portugal qui dit ouais.
Alors Grèce, Portugal, Luxembourg.
Ouais.
Interdite et réglementée par exemple en Allemagne où elles ne peuvent filmer qu'en cas de choc. Donc que se passe-t-il si je prends ma voiture et que je vais dans
ces pays? Je passe la frontière et je suis pas au courant. Bon, bah, si votre dashcam est intégré au véhicule, par exemple, vous avez acheté une voiture qui a une dashcam d'origine dessus, bah, malheureusement, vous pouvez pas la démonter. Donc, vous pouvez toujours l'enlever si c'est une dashcam qui a été rajoutée ou la déconnectée.
Ah, mais c'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant.
Pas d'harmonisation européenne sur ce sujet.
Ça, c'est vrai que là, il y a peut-être un souci, un point qu'il faudrait relever.
C'est
on posera la question à Pionnier tout à l'heure, savoir si ces dashcams sont homologués dans tous les pays d'Europe, justement.
Étienne est avec nous, donc, au 32-16. Bonjour, Étienne.
Bonjour, Étienne.
Oui. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, François.
Étienne de Marseille. Bienvenue.
Voilà, tout à fait. je vous appelle, en fait, si vous voulez, ma fille a acheté un véhicule, une Nissan Qashqai de 2013. Hein, c'est un 4x4, un SUV crossover, un D6, c'est 130 stop-start, c'est le modèle, hein, 360 à le mode.
D'accord, non,
et
mais.
En fait, si vous voulez, sur ce modèle-là, qui est un peu une série.
Non, mais diesel, essence, c'est quoi?
Utilité. Donc, en fait, si vous voulez, donc, il y a 10 mois.
Étienne,
on ne vous entend pas du tout.
On a un problème avec votre téléphone. Il faudrait que vous vous rapprochiez d'une fenêtre parce que ça passe pas, ça coupe. Et Jean-Luc, vous posez la question.
Vous m'entendez, là ?
Oui, et vous nous entendez quand on vous parle ?
Oui, je vous entends.
Ah, alors, essence ou diesel, le véhicule
alors,
en question ?
Alors, c'est un diesel.
D'accord.
C'est un diesel, le Nissan.
D'accord.
Je répète ou...
Non. Donc, c'est un Nissan Qashqai diesel, 130 chevaux, 4 roues motrices, c'est ça ?
C'est ça,
oui.
L'Allemagne. Et en fait, comme je comprends, c'est un modèle qui a été vendu, qui vient d'Allemagne, hein, si vous voulez, d'Autriche, pardon. Et
d'accord.
En fait, si vous voulez, donc ce véhicule a eu déjà plusieurs mains. Ma fille doit l'avoir en 4e ou 5e main. Il a 90 000 km. Et en fait, ça fait 10 mois qu'elle l'a acheté. Et là, elle a eu un souci, si vous voulez, donc avec le véhicule, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus avancer, elle roulait à peu près à 30 à l'heure. Voilà, pas plus. Donc elle a été voir un garagiste. Et le garagiste a dit, écoutez, c'est votre FAP. Donc, alors on a regardé, mais le problème, c'est que, si vous voulez, donc, tous les garages ne peuvent pas avoir ce FAP, parce qu'apparemment, c'est desservi uniquement que par Nissan. Le problème, c'est que, si vous voulez, Nissan se réserve sur ce FAP, si vous voulez, c'est un prix de 1 600 € sans la main-d'œuvre. Ce qui fait que si on compte la main-d'œuvre, il y en a à peu près pour 2 600. Alors, un véhicule de 10 mois qu'elle a acheté en occasion, hein, qui a 90 000 km, il l'a acheté 11 000 euros. Voyez un petit peu, s'il faut faire une réparation de 2 600, c'est quand même beaucoup.
Et alors
ce que j'avais voulu savoir, est-ce que c'est possible d'avoir un FAP ailleurs que chez Nissan? Parce qu'apparemment, les que c'est pas possible.
Si, c'est... Alors... Peut-être qu'ils ont raison en vous disant que c'est pas possible, puisque peut-être que le filtre à particules sur la version 4 roues motrices est différente, et c'est un filtre à particules qui est propre à Nissan. De toute façon, c'est pas Nissan qui fabrique les filtres à particules, hein. Les échappements, c'est pas les constructeurs qui les fabriquent.
C'est des équipementiers.
Voilà, c'est des équipementiers. Donc, il suffit de savoir quel est le fabricant de ce filtre à particules pour éventuellement se le procurer en direct.
La référence.
Voilà, en direct chez eux. Mais il y a une autre solution, on en a parlé dans l'émission, c'est qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui font de la régénération de filtres à particules. Donc ça, démontage quoi qu'il arrive, démontage du véhicule et ensuite nettoyage de ce filtre à particules, ce qui coûte beaucoup moins cher. On est dans des prix de 500 € pour un nettoyage, donc on est moins de moitié du prix de votre filtre à particules neuf. Donc je crois que la solution c'est ça.
Bon, ça n'empêchera pas le démontage.
Ah, de toute façon, démontage, remontage, vous êtes obligé, voilà. Et ensuite réinitialisation.
Ça vous paraît normal, 1000 euros de main-d'œuvre,
oui,
voilà.
Mais il y a des filtres à particules qui valent 2 500 €.
Non, mais là, je parlais de la main-d'œuvre pour le monter et le démonter.
Je connais pas la façon dont il est monté sur le véhicule, mais c'est vrai que parfois, les filtres à particules ont tendance aujourd'hui à remonter le plus près du moteur. Donc souvent, ils ont une accessibilité qui est assez limitée.
D'accord.
Et si on est obligé de démonter plein de périphériques, c'est normal qu'il y ait du temps de main-d'œuvre.
Ouais.
Malheureusement.
Donc pour Étienne, voir si on peut avoir un filtre à particules alternatif.
C'est nettoyage. Ouais. Non, mais surtout nettoyage. Privilégier cette solution-là parce que ça
Marseille,
lui permettra.
Il y a des sociétés qui font ça.
Mais ils peuvent le démonter chez Nissan et puis nous on en avait parlé. Alors j'ai plus le nom de la société dont on avait parlé, mais on peut le retrouver, le mettre éventuellement sur le site de la page Facebook de l'émission et comme ça il retrouvera le nom.
Voilà, on va faire ça comme ça. 9h-20, Jean-Luc, on va revenir dans un instant. L'essai de la semaine Ça sera juste après cette petite pause et ce sera la Dacia Sandero Stepway Eco 100G qui visiblement est l'un des coups de cœur de cette année, peut-être le coup de cœur de l'année 2020. Ouais. Le 32-16 de RMC Direct
une
Studio.
Une info pour notre infirmier libéral de tout à l'heure qui se demandait, il disait le Iniro, il était assez grand et a priori corpulent. On a un auditeur, on a Serge qui nous dit, moi je fais 1m82 pour 100 kilos, j'ai un Iniro et j'ai beaucoup de place à bord, donc j'ai pas de problème. Voilà. Voilà. Donc il répond à la question.
Allez, on revient dans un instant, c'est RMC, c'est votre auto. A tout de suite.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto.
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
Nous voilà de retour 9h moins le quart. Le week-end des experts, l'automobile. Notez qu'on est là jusqu'à 10h. Tout à l'heure entre 9 et 10. On évoquera, on reviendra sur les dashcams. Tout à l'heure c'était l'aspect juridique avec Maître Rémi Chaussaume. Tout à l'heure on s'intéressera eh bien, au modèle de dashcam, et notamment avec un focus sur la marque Pioneer qui propose donc 3 dashcams.
Trois nouveaux modèles.
On en parlera avec le porte-parole de Pioneer France, le directeur marketing qui sera avec nous. Et puis notre question pas si bête tout à l'heure, les voitures électriques vont-elles finir par bloquer les autoroutes? Ça c'est la réflexion d'un auditeur marseillais que vous avez rencontré
et qui est très pertinente, hein. Il y en a plein d'ailleurs, il m'en a donné une quinzaine. Je trouve ça assez rigolo. Il y a des gens, vous voyez, qui seulement réfléchissent, mais ils mettent noir sur blanc, ce qui est bien.
Et puis, comment éviter les arnaques sur les voitures d'occasion pendant la crise de cette épidémie? Ça sera notre rendez-vous sur le vif aussi. Mais dans l'immédiat donc, l'essai de la semaine. Et Jean-Luc, l'essai de la semaine, c'est la nouvelle Dacia Sandero.
La nouvelle Dacia Sandero. Alors la première génération était sortie en 2008. J'avais même essayé en avant-première. Alors j'étais allé au Brésil pour faire un sujet sur l'éthanol. Ouais. Voyez, hein,
déjà, vous n'avez pas dû aller au Brésil, je pense.
Non, là, je ne suis pas allé au Brésil. Hein. Non,
j'étais à Juvisy.
Oui. Pas très loin. J'étais en région parisienne. Donc j'étais allé essayer la première Sandero. J'avais été séduit par cette voiture qui était simple. Donc elle avait des défauts parce qu'elle était simple, mais elle était tellement peu chère qu'on lui pardonnait ses défauts.
Évidemment.
Voilà, c'était un modèle basique, minimum d'équipement, des moteurs anciens, une habitabilité qui était généreuse et puis un confort étonnant et surtout. Vraiment le tarif, ce qui a fait le succès de la Sandero. Maintenant, on en est à la troisième génération et tout a changé. Tout, sauf un petit village de Gaulois, sauf le prix qui reste imbattable et on va dire chapeau. Alors, on commence par le prix. Elle arrive en concession début 2021. On peut déjà la commander, cette nouvelle Sandero. Elle est disponible en deux versions, la version berline ou la version Stepway, vous savez, qui est un peu plus SUV. D'accord. Et qui est encore plus SUV avec cette nouvelle génération. Donc, ça démarre à 8 690 €, wow. Et ça va jusqu'à 14 090 € pour la berline, qui est produite en Turquie et au Maroc, et ça va de 12 590 € à 15 290 € pour la Stepway.
Ah, la Stepway est plus chère, quand même.
Oui, qui est toujours assemblée en Roumanie. Alors, la Stepway a un look plus SUV, c'était 65% des ventes de l'ancienne génération. La Stepway, il faut dire qu'elle est vraiment jolie. Il n'y a pas d'autre mot.
D'accord.
La nouvelle génération, voilà. Avant, on pouvait se dire, bon, elle avait un look un peu passe-partout, mais la nouvelle génération de Sandero, elle est franchement sexy. On peut l'acheter juste pour son look, parce que c'est une voiture qui plaît. Alors, il y a des feux avant.
On ne va pas avoir honte de rouler avec.
Et non, complètement. Il y a des feux avant et arrière qui sont à LED. Le pare-brise est plus incliné. Le pavillon est abaissé. Les voies avant et arrière sont plus larges. Vous avez les éléments de protection qui sont spécifiques à la Stepway. Vous avez une garde au sol qui est surélevée de 41 mm et même des barres de toit. Alors, cette nouvelle Sandero, elle gagne 37 mm en longueur pour atteindre maintenant 4,088 m. Ça se traduit par quoi? Par une habitabilité supérieure. C'était déjà un des points forts de la Sandero avant. Par rapport à son gabarit, elle était très habitable. Elle est encore plus habitable. Et l'espace en place arrière, en particulier, et aux genoux, est le meilleur de son segment. Quant au volume du coffre, il atteint 410 €, c'est-à-dire c'est pratiquement
410 litres.
J'ai dit euros, parle trop d'argent sur cette voiture, c'est pour ça. Il atteint 410 litres, c'est aussi un des meilleurs de la catégorie. Donc, dans finalement un format qui est pas plus grand que celui d'une 208 ou d'une Clio, on a plus d'habitabilité et on a un coffre plus grand. Bien. Alors avant, ce qui pêchait franchement, c'était la présentation à bord. C'est vrai que c'était basique. Aujourd'hui, sur la finition haut de gamme confort que j'avais moi dans ma voiture, on a du tissu sur la planche de bord, un peu comme vous avez dans la Zoé, François. Donc ça, tout de suite, on sent c'est plus valorisant, c'est plus cosy à l'intérieur. En plus, vous avez tout un tas d'équipements nouveaux. Le volant devient réglable en profondeur et en hauteur. Les sièges également sont réglables en hauteur. De série, vous avez un équipement. Alors, sur les... là, je parle de la version, la finition, on va dire haut de gamme, entre guillemets. Un ordinateur de bord, un support smartphone, un support pour le smartphone d'origine. Il y a peu de voitures qui proposent
oui,
ça,
oui, oui,
quand,
c'est
quand
vrai.
Même. C'est vrai. L'allumage des feux automatiques, des feux avec des commandes au volant, un régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. Alors, vous avez en équipement optionnel un frein à main électrique, une carte main libre pour entrer dans la voiture. Vous imaginez, c'est une Dacia. On n'aurait pas cru, au moment où Dacia a été lancée, qu'un jour on aurait ça. Vous pouvez avoir des sièges chauffants, un toit ouvrant électrique. Vous avez une triple offre multimédia qui commence avec ce qu'on appelle le Media Control. Là, c'est le smartphone qui sert en fait de multimédia.
Oui.
Vous avez
pas mal,
qui passe par une interface Dacia Control qui est très bien.
Oui.
Ensuite, vous avez ensuite vous avez un écran 8 pouces avec Apple CarPlay et Android. Bref, vous avez l'offre multimédia qu'on peut avoir sur des véhicules beaucoup plus haut de gamme. Niveau sécurité, on a le freinage automatique d'urgence, détecteur d'angle mort, assistance au parking avant-arrière avec capteur et caméra de recul, et puis l'aide au démarrage en côte. En gros,
vous avez tous les équipements modernes
qu'on trouve sur tous les autres véhicules. La plateforme, c'est celle de la Renault Clio, donc c'est une base totalement nouvelle. Ça permet quoi ? Ça permet un châssis plus rigide, plus résistant au choc. Vous avez une direction assistée électrique et non plus hydraulique, ce qui permettra de faire des économies en matière de consommation. Et la précision de conduite est renforcée. Ce n'était pas le point fort des Dacia, c'était vraiment leur grand confort, quitte à avoir un petit peu moins de précision au niveau de la conduite. Franchement, aujourd'hui, on ne renonce plus à rien. Alors, côté motorisation, les diesels, c'est terminé sur cette nouvelle génération. Plus de diesel. En revanche, vous avez du GPL à la place. Dacia privilégie le bloc, on en a déjà parlé, l'Eco G100, qui est associé à une boîte manuelle à 6 rapports, qui propose une bicarburation essence et GPL. Bon, franchement, on peut faire 1300 km avec les deux réservoirs essence et GPL, c'est presque sans concurrence sur le marché. Vous embarquez 40 litres de GPL. En fait, c'est un réservoir torique qui remplace la roue de secours à l'arrière et vous avez un réservoir d'essence de 50 litres. On passe d'un carburant à l'autre avec un petit bouton qui est au tableau de bord. Mmh. Et la grosse qualité de la voiture, c'est que on a renforcé le silence. Je vous ai dit, elle reste confortable. Le moteur est encore plus silencieux qu'avant et on a une douceur extrême. Ce petit moteur 3 cylindres, c'est un petit moteur 3 cylindres. Franchement, il s'en tire très bien. Il fait 100 chevaux.
Et, ça suffit ?
Ah oui, ça suffit largement. La voiture n'est pas extrêmement lourde. Mmh. Et on arrive même à des consommations qui sont... Alors moi, j'ai consommé 7,4 litres au GPL et 6 litres en essence. Donc c'est extrêmement raisonnable. Compte tenu du budget de la voiture, en plus le GPL s'affiche, on va dire, à 0,85 euros en moyenne, ça vous fait un coût kilométrique qui va être inférieur à celui d'un véhicule diesel équivalent avec une pollution qui va être plus faible.
Voilà,
donc,
ça, c'est bien.
Vous avez... Parce qu'en plus, la version GPL, elle est au même prix que la version TCE 90 essence.
Ah oui.
Donc, qui va aller acheter un modèle essence ?
C'est sûr.
Alors que pour le même prix, on a un moteur,
plus puissant et GPL.
Et GPL.
Et qui roule toujours à l'essence, bien sûr.
Qui roule toujours à l'essence. Et en plus, souvenez-vous, ce moteur, c'est le même que celui qu'il y a dans la Clio. Le concepteur du moteur m'a dit, il boit du E85.
Donc on pourrait faire du GPL E85.
Ouais, exactement.
Ah ouais.
Exactement. Je pense que il y a peut-être sans doute quelques apprentis sorciers qui vont faire le test, mais je pense qu'il prend du E85 sans trop de problèmes. Donc le meilleur des mondes pour tout au prix du modèle essence classique, franchement aujourd'hui, comment hésiter quand on a besoin d'une petite familiale compacte ? C'est pour moi la meilleure voiture de l'année. C'est pas la voiture de l'année, c'est l'objet d'une élection. Mais pour moi, de tous les modèles que j'ai essayé cette année, en regard du prix,
c'est clair.
Mais il y a rien de concurrent. Il y a rien de concurrent à ce modèle-là précis. Donc avec tout l'équipement à 15 290 euros, vous avez absolument tout dedans. Il y a rien à rajouter.
L'équivalent, c'est quoi en fait, la concurrence ?
Il y a pas de concurrence. Il faut, si vous prenez même une Clio qui est un modèle qui offre moins de place à l'intérieur, mais qui a à prestation équivalente, elle va être 20% plus chère.
Oui, c'est ça.
Donc, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a toujours pas de concurrence.
Et est-ce qu'on peut imaginer que cette Sandero évolue par exemple vers l'électrique, Jean-Luc ? Est-ce que Dacia a des projets là-dessus ?
Ben on pourrait imaginer de l'hybride, on pourrait imaginer de l'électrique. Alors, Dacia nous a dit qu'il n'y aura pas de tout ça, mais vous savez, il y a un petit véhicule qui
comment
est vendu
pour
l'instant en Chine.
Comment ça, ils ont dit qu'il n'y aura pas d'électrique
non,
chez Dacia ?
Non, au départ. Au départ, on nous avait dit Dacia, ça restera une marque low cost, donc il n'y aura jamais les dernières technologies ne seront pas disponibles sur Dacia.
Ben là, ils sont en train de démentir ce qu'ils sont en train de dire.
Que non, parce que toutes les dernières technologies sont sur cette Sandero. Donc, est-ce que demain, il y aura une Dacia électrique ? Je vous réponds clairement, oui, demain, il y aura une Dacia électrique. Ça va être un petit SUV. Alors, est-ce qu'il va être vendu ? La question, c'est, est-ce qu'il va être vendu en France sous la marque Dacia ? Mais en tout cas, il sera proposé dans certains pays sous la marque Dacia. Est-ce qu'il va être vendu Renault ou Dacia ? C'est le quid, vous savez.
Elle aurait un nom, cette voiture. La Dacia électrique, ça serait la Spring. Si vous en avez entendu parler. Elle est annoncée pour 2021.
Ça sera la moins chère. Ça sera l'électrique la moins chère du marché.
Et ça sera en fait la Renault KZE qui a été lancée l'année dernière en Chine.
C'est ça. Voilà. Un petit SUV.
Donc
avec une batterie de plus faible capacité que ce qu'on trouve sur les autres modèles, mais qui vraisemblablement sera aux alentours de 15 000 euros.
Et vous rendez compte, il y a des photos, elle est tout à fait mimi.
Elle est super jolie, bien évidemment.
Non. En fait, comme ça, au rabais. C'est intéressant.
Non, c'est que des bonnes surprises, franchement.
Parfait. Bon, Jean-Luc, voilà pour l'essai de cette Dacia Sandero que vous nous conseillez chaudement. On va revenir dans quelques instants pour cette dernière heure avec en priorité, bien sûr, vos questions auto. Profitez-en. 32-16.
Est-ce qu'on a une minute pour répondre à une question de Valérie, François ?
PRMC Direct Studio.
On
n'a plus que 20 secondes. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à nous appeler. Jean-Luc reviendra sur la question de cette auditrice après la météo et les infos. Et puis, je vous rappelle qu'on vous aidera à choisir votre dashcam. Tiens, ça peut-être une idée cadeau sympa pour Noël. On recevra le porte-parole de Pioneer qui commercialise 3 nouvelles dashcam. On en parle après la météo et les infos. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.